être très active. Et donc, c'est en s'appuyant à la fois sur les médecins et sur les associations de patients que nous avons, avec eux, construit les plans d'intervention et les domaines d'intervention. Alors, on essaye toujours d'avoir une réponse pluridisciplinaire, c'est-à-dire à la fois travailler pour sensibiliser la population. Comme vous le savez, la maladie est souvent stigmatisée. On imagine qu'elle a une origine un peu mystique, alors que, bon, ça s'explique très, très bien par la science. Hein. Donc, aider les populations à comprendre et à identifier cette maladie, former aussi le personnel de santé, qui ne connaît pas bien même, et puis bien sûr aider les structures de santé en améliorant le plateau technique et en leur donnant accès aux médicaments pour pouvoir prendre en charge les patients, et puis également faire un plaidoyer auprès des autorités locales pour que dans les ministères de la santé, eh bien, il y ait un volet qui soit consacré à la drépanocytose. En général, ce sont les services de lutte contre les maladies non transmissibles qui ont un volet sur la drépanocytose, mais parfois qui eux aussi manquent de moyens et manquent de partenaires, en fait, pour s'intéresser à cette problématique.
Est-ce que jusqu'à présent, vous avez obtenu quelques succès significatifs dans votre lutte contre la drépanocytose ?
Oui, tout à fait. C'est ça qui est magique. C'est que dès qu'on commence à travailler justement localement, il y a tant à faire que même si ça reste à petite échelle, on a des résultats immédiats. Donc, ce qui a été un peu le projet phare de départ de l'action de la Fondation, ça a été la création à Bamako du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, qui est un établissement à vocation scientifique et technique, un hôpital de jour, créé donc en partenariat avec le gouvernement malien et qui permet aujourd'hui, donc il a ouvert ses portes en 2010. Et donc aujourd'hui, il a une cohorte de patients de 10 000 personnes. Et donc il donne un accès équitable aux soins, quel que soit le niveau de pauvreté de la population. Tout le monde a accès à la fois aux diagnostics, aux examens et aux médicaments et au suivi. C'est aussi un centre de formation. Donc il a un diplôme universitaire reconnu par l'Université de Bamako et il forme des médecins au Mali, mais aussi dans la sous-région. Et c'est également, nous l'espérons bientôt aussi, un premier centre de recherche, puisque nous travaillons avec CRLD pour numériser les données sur les malades de façon à avoir une base de données qui permette de recevoir des projets de recherche collaboratifs avec éventuellement d'autres centres de recherche du Nord ou du Sud.
Vous avez parlé du Mali, mais j'aimerais savoir dans quel autre pays d'Afrique vous êtes aussi présent, dans quel autre pays d'Afrique menez-vous aussi vos actions de lutte contre la drépanocytose et avec quelle structure ?
Alors, nous travaillons directement au Sénégal avec l'université Gaston Berger à Saint-Louis du Sénégal, où là nous avons un projet de recherche opérationnelle pour montrer combien le dépistage néonatal à la naissance des enfants permettait une meilleure prise en charge et permettait aux enfants finalement d'être préservés des conséquences les plus dramatiques de la maladie. Nous avons également un projet en Haïti avec un hôpital pédiatrique pour les enfants pour améliorer la prise en charge et là aussi développer le dépistage néonatal, qui est la meilleure réponse pour lutter contre la mortalité. Et puis, nous travaillons avec une autre organisation ONG qui s'appelle IOCD dans le cadre d'un programme à plusieurs pays. C'est une plateforme pour améliorer le dépistage et la prise en charge des patients en Afrique centrale et à Madagascar. Donc, en Afrique centrale, ça concerne la RDC, le Congo, Brazzaville, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et il y a également Madagascar, en fait, dans ce programme.
Vous rencontrez beaucoup de succès, ce qui est une très bonne chose, mais c'est certain aussi qu'il y a toujours des défis auxquels vous rester confronté.
Ah mais absolument. Le défi, c'est souvent que on arrive à établir un programme dans un hôpital, dans un centre de soins. Et en fait, c'est tout le pays qui aurait besoin d'une organisation des soins pour pouvoir répondre à tous les besoins. Le problème de Bamako, par exemple, c'est que c'est un très grand pays et le centre est un peu débordé avec des gens qui viennent un peu de toutes les régions. Donc on a commencé, par exemple, au Mali, avec le CRLD, à délocaliser la prise en charge. Par exemple, en construisant à Kay une petite unité de compétences sur la drépanocytose au sein de l'hôpital régional de Kay. On travaille à la même chose pour Sikasso. On a un projet aussi au Burkina Faso. On commence aussi à décentraliser. On est à la fois à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et là, on a un projet pour être dans plusieurs régions. Mais ça, ça reste vraiment un défi de pouvoir ne pas centraliser toute la prise en charge sur une seule structure de soins. Il faut vraiment que, au plus près du terrain, l'ensemble des personnels de santé et des structures de soins aient à leur niveau les capacités de prendre en charge les patients. Alors, pour faire cela, il faut qu'il y ait une prise de conscience globale des autorités sanitaires et puis aussi de tous les partenaires de la santé, donc tous ceux qui veulent contribuer à une meilleure prise en charge des enfants et de la population en général doivent aussi inclure la drépanocytose dans leur plan d'action.
Les spécialistes de la santé craignent que la drépanocytose prenne de l'ampleur en Afrique. Vous qui êtes sur le terrain, terrain, est-ce que vous avez le sentiment que la maladie peut prendre de l'ampleur en Afrique ?
Bien sûr, ah, mais absolument. Hein. Parce que tout simplement, elle va suivre la courbe démographique. Hein. Donc, par ailleurs, la population, elle bouge, hein, elle migre, etc. Donc, c'est vrai qu'actuellement, c'est très concentré les fortes prévalences sur l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Mais, je veux dire, avec les migrations, et c'est ce qu'on voit, hein, parce qu'il y a de fortes prévalences aussi là où il y a eu des fortes migrations dans l'histoire, hein, donc dans la Caraïbe, au Brésil, en Amérique du Nord aussi. Donc c'est clair que c'est quelque chose qui concerne beaucoup l'Afrique, mais qui va concerner le monde entier et qui concernera d'autant plus l'Afrique que la population va augmenter. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de sensibiliser la population et de donner accès au dépistage et de donner l'accès à l'information sur son statut. Parce que si vous êtes porteur du trait drépanocytaire, vous n'êtes pas malade, mais vous êtes transmetteur. Donc c'est important que les gens connaissent ce statut parce qu'ils peuvent prendre certaines précautions et ne pas transmettre à leur enfant. Il y a malgré tout des fois des choix dans la vie qui pourraient permettre de ne pas transmettre ce gène parce que deux parents transmetteurs ont une chance sur quatre que leur enfant soit drépanocytaire majeur. Et c'est vrai que cette maladie, même si on arrive à la gérer avec une bonne prise en charge, c'est quand même beaucoup de souffrance. Il faut savoir que c'est quand même la maladie de la douleur. Et je pense qu'il n'y a rien de plus dur pour un parent que de voir souffrir son enfant. Donc je crois qu'après, on peut aussi faire des choix en conscience et se dire, bon ben voilà, je prends le risque et si mon enfant est malade, je vais le soigner. Mais c'est une information qu'on doit partager éthiquement avec la population. Donc il faut informer en disant, ben voilà, on peut éviter. Et si on n'évite pas la maladie, si on transmet quand même la maladie, voilà comment il faut prendre en charge pour que l'enfant, malgré tout, ait une vie digne et le plus épanouie possible.
En tant qu'actrice sur le terrain, quels conseils allez-vous donner à tous nos auditeurs ? Comment est-ce qu'eux aussi peuvent contribuer à la sensibilisation ou à la lutte contre la drépanocytose ?
Oui, alors là, je pense que chacun peut être acteur, chacun. D'abord, en se renseignant sur la maladie, en parlant avec son médecin, en cherchant de l'information. C'est important de savoir, de comprendre. Alors, c'est vrai que c'est des maladies génétiques, c'est parfois difficile à expliquer le mode de transmission, comment ça se passe, etc. Mais c'est important de comprendre, d'en parler autour de soi, dans son entourage, dans sa famille. C'est vraiment pas rare que chacun ait un ami ou quelqu'un dans la famille qui soit concerné. Et donc, c'est important de comprendre et après de contribuer au fait que, bah, il faut dédiaboliser cette maladie. Et puis, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de précautions qui permettent qu'on puisse vivre mieux avec la maladie. Donc, il faut aider les enfants, notamment, bah, aider avec les bonnes mesures, la bonne prise en charge, la bonne écoute. Il faut aussi porter l'information, par exemple, à l'école, parce que ces enfants, ils ont besoin d'un soutien particulier, quoi. Ils ont besoin de plus de repos, de pouvoir s'hydrater, de sortir de la classe. Donc toute l'information qui circulera, qui permettra une meilleure attention, une meilleure prise en charge des enfants, bénéficiera à l'ensemble de la communauté.
Au début, vous avez parlé un tout petit peu de vos axes d'intervention. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous parler des axes d'intervention de la Fondation Pierre Fabre ?
La Fondation est investie depuis le début également dans la formation des pharmaciens et des spécialistes du médicament. L'objectif étant de donner accès à un médicament de qualité à toute la population. Et pour cela, les pharmaciens sont un maillon essentiel. Et dans beaucoup de pays, on manque de pharmaciens et les facultés parfois n'ont pas les moyens de former au meilleur niveau les pharmaciens ou des spécialistes du médicament qui ensuite vont travailler dans les gouvernements, les hôpitaux. Donc pour cela, on travaille directement avec des facultés des sciences de la santé ou des facultés de pharmacie quand elles existent ou alors les départements pharmacie des facultés de sciences de la santé. On est très présent en Asie du Sud-Est, Cambodge, Laos, Vietnam et en Afrique. On travaille depuis 7 ans maintenant avec le Togo, avec l'université de Lomé. Et également à Madagascar, où on va construire la première faculté de pharmacie à Antananarivo. Mais ça fait déjà 10 ans qu'on soutient en fait la filière de formation des pharmaciens. Sinon, en termes de pathologie, on a également ciblé la dermatologie en essayant de répondre au manque de spécialistes, notamment en Afrique, où on a grosso modo à peu près un dermatologue pour 1 million d'habitants, ce qui est bien sûr insuffisant. Donc on développe des programmes, notamment de télé-expertise au Mali, mais également au Togo et en Mauritanie. On travaille aussi pour essayer d'apporter du soin aux populations, à une population particulièrement vulnérable. On travaille aussi pour essayer d'apporter du soin à une population particulièrement vulnérable en Afrique. Ce sont les personnes atteintes d'albinisme. Ils sont très à risque concernant les cancers de la peau. Donc on a des programmes de prévention pour qu'ils se protègent et puis aussi de prise en charge précoce des cancers de la peau. Et puis, on travaille aussi en appui de solutions locales dans des situations de crise par rapport à des populations populations vulnérables. Alors là, je citerai principalement l'action du docteur Mukwege en République démocratique du Congo, donc qui fait une prise en charge pluridisciplinaire des femmes victimes de violences sexuelles dans les zones de conflit. Donc nous appuyons son action en RDC, notamment dans un hôpital rural à Boulenga, qui est au nord de Goma. Et puis nous travaillons également au Liban pour l'accueil des réfugiés syriens avec un partenaire local qui est l'Ordre de Malte du Liban. Globalement, transversalement aussi, on essaye de travailler en Afrique et en Asie pour qu'il y ait des solutions innovantes qui permettent d'être des nouveaux modèles en fait, de prise en charge, plus efficaces, moins chères et pour inclure toutes les populations. Quand on voit par exemple en Afrique combien le téléphone portable en fait, est maintenant maîtrisé, adopté par tout le monde, y compris dans des zones isolées, y compris par des personnes qui peuvent par exemple ne pas savoir écrire mais savent utiliser le téléphone portable, on a des outils avec ça, avec Internet, pour essayer aussi d'améliorer l'information médicale, l'accès aux soins, la compétence des personnels de santé. Donc on a un dispositif pour essayer de repérer ce qui fonctionne bien et de soutenir localement les initiatives qui ont vraiment prouvé une efficacité dans le domaine de l'accès aux soins.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Vous venez de suivre notre interview avec Madame Béatrice Garrett, la directrice générale de la Fondation Pierre Fabre qui lutte contre la drépanocytose. Voici le moment de suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Coup d'œil sur l'actualité.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur le rôle essentiel des infirmiers et infirmières. L'éducation sexuelle des enfants. À quel âge? Vos réactions sur la question. Le fœtus est-il sensible aux émotions ressenties par sa mère? Un expert nous en dit plus. Enfin, une nouvelle étude suggère l'augmentation du taux d'obésité en milieu rural en Afrique. C'est dans notre prochaine édition de Carnet de santé. Bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Passion, dévouement et empathie, ce sont certaines des qualités dont font preuve les infirmières et infirmiers au quotidien, que ce soit dans la prévention des maladies, la prestation des soins primaires, durant les urgences ou autres situations. Leur rôle est crucial dans le maintien en bonne santé des personnes et des communautés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les infirmières et les sages-femmes représentent près de 50% du personnel de santé dans le monde. Mais il existe une pénurie d'infirmières au plan mondial, particulièrement en Asie du Sud-Est et en Afrique. Les infirmières font de grands sacrifices à chaque jour pour aider les patients et ceux qui en ont besoin, quelquefois au risque de leur vie. Djamila Amadou a fui Gao aux côtés de milliers d'autres en 2012 lorsque des groupes extrémistes ont occupé la ville du Nord du Mali. Elle fait partie de ceux qui sont revenus pour reconstruire et elle utilise ses compétences d'infirmière pour aider la ville à recouvrer sa santé, en dépit de l'insécurité persistante dans la région.
À l'école primaire, Djamila Amadou voulait être infirmière. Aujourd'hui âgée de 50 ans, elle vit son rêve comme infirmière en chef au centre de santé de référence de Gao, un hôpital général desservant environ 550 000 personnes dans le nord du Mali, dont beaucoup ont été déplacées par le conflit.
De cas. Il y a le palu, diarrhée, fièvre, typhoïde, ulcère gastrique, les hypertendies.
6 ans après l'intervention des forces françaises contre l'avancée des djihadistes dans le nord du Mali, les violences se sont propagées dans le Sahel. La sécurité s'est fortement détériorée ces dernières années à la suite d'attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, ainsi qu'en raison de heurts ethniques. Pendant l'occupation, des hôpitaux et des installations de services publics ont été vandalisés.
C'était pillé en avril. Tout était saccagé, complètement saccagé. Il n'y avait rien, ni porte, ni fenêtre ici.
Le mois dernier, pas moins de 160 personnes ont été tuées dans le village de Gossagou. Malgré l'insécurité, de nombreuses personnes reviennent à Gao et la population augmente. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres partenaires ont ainsi travaillé à la réhabilitation de l'hôpital principal. Quant à Djamila, à la fin d'une longue journée, elle rentre chez elle en scooter pour retrouver sa famille.
La profession d'infirmière est un pilier essentiel pour la santé publique. Pour en savoir plus, nous avons avec nous par Skype Madame Lydie Nkulu-Molia, qui est infirmière au centre médical du centre-ville de Goma, en RDC. Madame Lydie Molia, merci de nous rejoindre. Alors, en tant qu'infirmière, vous assurez le relais entre le médecin et les patients. En quoi consiste votre travail au quotidien au centre médical du centre-ville?
En tant qu'infirmière, donc, on travaille en collaboration entre médecins et infirmières. Les médecins consultent, ils nous donnent les recommandations et nous, les infirmiers, on exécute. On reste à côté des malades, on les surveille et après, on donne les rapports aux médecins. S'il y a à ajouter, il ajoute. S'il n'y a pas à ajouter, on continue avec la surveillance.
Et Madame Lydie, on dit que ce métier demande de grands sacrifices personnels à ceux et celles qui l'exercent. Si oui, quels sont certains de ces sacrifices?
En tout cas, pour être infirmière, d'abord, il faut être patiente. Il faut avoir la compassion. Parce que quand on entend, on connaît l'heure d'entrée, on ne connaît pas l'heure de sortie. Tu peux être à l'hôpital à 6 heures et que tu quittes à 20 heures. Et normalement, tu devais quitter à 15 heures. Parce qu'il y a trop à faire. Il faut soutenir les malades. Il faut être à côté des malades. Donc, on se sacrifie.
Vous nous avez fait parvenir vos commentaires sur Facebook, notamment Alphonse Mbouaki à Kinshasa, en RDC, qui dit, s'agissant de la profession d'infirmier, il faut améliorer leurs conditions de travail, leurs salaires et primes. Ils travaillent beaucoup, mais gagnent peu ou modiquement par rapport aux médecins. Donc, Madame Lydie, que pensez-vous de ce commentaire?
Là où j'exerce mon métier comme à CMDC, en tout cas, je travaille dans de bonnes conditions. Je suis dans l'hôpital privé, je travaille dans de bonnes conditions, mais l'hôpital de l'État, en tout cas, là-bas, il faut améliorer. Il n'y a pas de matériel, les gens n'ont pas d'argent, l'hôpital coûte cher, mais ici, chez nous, on a des matériels, on a tout, on travaille à l'aise.
Et c'est un métier qui demande aussi beaucoup de vous physiquement et même mentalement. Y a-t-il des moments où vous avez le sentiment d'être à bout?
Oui, oui, par moments. Tu peux avoir trop à faire, beaucoup de malades, beaucoup de recommandations à faire. Tu peux être à bout. Par exemple, tu as un problème, tu as un deuil que tu n'es pas à mesure d'aller même au deuil, tu es au travail. Tu peux même te dire que non, ce métier, je peux l'abandonner. Même comme c'est une vocation, tu ne peux pas abandonner. On se sacrifie beaucoup.
Très bien, Madame Lydie Nkulu-Molia. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes infirmière au centre médical du centre-ville à Goma, en RDC. Alors, l'éducation sexuelle des jeunes, c'est un sujet qui soulève les passions. Selon les experts, l'éducation sexuelle a pour but, entre autres, de fournir un modèle sain de comportement sexuel et renforcer la capacité à prendre des décisions responsables. Mais à quel âge peut-on parler de sexualité aux jeunes? Quand est-il trop tôt?
En Côte d'Ivoire ici, au niveau du code civil, une jeune fille peut se marier à partir de 16 ans avec l'autorisation de ses parents. Dès l'instant où la loi même permet à quelqu'un d'aller au mariage, cela suppose que la loi autorise cette personne à aller à la sexualité. Il faut préparer l'enfant depuis le bas âge et cette préparation-là ne commence pas par la sexualité. C'est construire sa personnalité et au fur et à mesure intégrer ces ingrédients-là.
La sexualité en islam, quand on sait que l'enfant fait la distinction entre le bien et le mal, entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, à partir de ce moment, on peut communiquer avec l'enfant. Il parle de la sexualité. Parce que l'islam est déjà, l'islam nous explique tout.
Aujourd'hui, la sexualité, il faut en parler, mais de manière mesurée, de manière responsable. Et il faut responsabiliser les enfants. Dis-nous ce qui t'arrive là. Ça m'est arrivé aussi. Et voilà ce que j'ai fait. Et voilà ce que tu dois faire. Pour que tu t'en sortes. Qu'il y a les périodes de turbulence, 16, 17 ans, 18 ans, 14 ans. C'est la période où l'organisme demande certaines choses. Et puis il y a des choses, même des mutations dans votre corps. Ces mutations-là, c'est quoi? L'enfant qui n'a pas reçu même une parole de sa maman ou de son papa a peur. Voilà. Et c'est cette peur-là qu'il faut faire tomber en donnant des conseils justes aux enfants.
Quel que soit l'âge qu'on estime approprié pour parler de sexualité aux jeunes, une chose est sûre, l'éducation sexuelle ne peut être ignorée chez les jeunes, selon les experts, car elle est nécessaire dans leur développement sexuel et leur bien-être. Il est dit souvent que dans le ventre, le bébé sent les émotions de sa maman. La joie, la peur, le stress, beaucoup de personnes le croient, mais pour d'autres, ce n'est pas si sûr. Alors, le fœtus ressent-il les émotions de sa maman? Vrai ou faux? Nous avons posé la question au docteur Michelle Fernandez, chercheuse à l'université d'Oxford en Angleterre.
Sur la base de nos résultats, nous ne pouvons pas dire avec certitude qu'il peut ressentir les émotions de la mère en soi. Par exemple, nous n'avons aucun moyen d'évaluer objectivement si un fœtus peut ressentir ou percevoir exactement ce que la mère ressent ou perçoit à un moment donné. Ce que nous pouvons dire, cependant, c'est que nous avons démontré que le fœtus peut réagir de manière particulière aux expériences de la mère en matière de stress. Cela n'a pas été démontré uniquement par nous, mais également par d'autres groupes de recherche du monde entier. Un groupe de recherche aux États-Unis qui est basé à l'université Howard suit de près les fœtus et étudie leur comportement dans le contexte de diverses expériences stressantes chez la mère. Dans notre étude, nous avons démontré que les fœtus réagissaient aux expériences de stress maternel à partir du troisième trimestre, soit de la 28e semaine de grossesse jusqu'à l'accouchement. Mais d'autres groupes de recherche ont démontré que cela se produisait plus tôt, au cours du deuxième trimestre de la grossesse également.
Eh bien, étant donné que le fœtus peut ressentir les émotions de maman, il est donc très important, chère maman, de garder sa bonne humeur le plus souvent. Eh bien, nous avons tendance à penser que les problèmes d'obésité sont plus fréquents en milieu urbain en raison, par exemple, d'une plus grande sédentarisation ou à une alimentation pas toujours saine. Mais selon une étude récente publiée dans le magazine Nature, il semblerait que non. Les chercheurs de l'Imperial College de Londres ont analysé les tendances mondiales de l'indice de masse corporelle, IMC, de plus de 112 millions de personnes dans les villes et en milieu rural de 200 pays et territoires. Entre 1985 et 2017, il suggère que depuis une trentaine d'années, les problèmes de surpoids augmentent plus rapidement dans les zones rurales que dans les villes, un chiffre qui atteint les 80% dans certaines régions en voie de développement. Les chercheurs évoquent plusieurs facteurs tels que la disponibilité limitée et les prix plus élevés des aliments sains en milieu rural. L'agriculture est plus mécanisée qu'avant et la voiture de plus en plus utilisée. Ces avancées sont bien sûr bénéfiques, mais elles réduisent les dépenses énergétiques. Nous avons posé la question suivante à un agriculteur en RDC. Consommez-vous ce que vous produisez dans votre champ, tels que fruits et légumes, ou mangez-vous plutôt de la nourriture qui vient de la ville?
Avec cette plantation de manioc, on peut avoir de bons résultats dans un mois, une très bonne récolte. Et si tu veux même avoir un meilleur résultat, avoir un grand champ de manioc, tu dois attendre une année et trois mois. Mais comme ces derniers temps, il y a la famine. On attend seulement une année pour que les enfants puissent avoir à manger. Comme tu le vois ici, cette plantation a déjà fait 6 mois. Et donc, j'attends encore 6 mois et là, je serai très content. Je divise toujours ma récolte en deux parties. Une partie que je vends et l'autre que j'envoie à la maison. Si j'ai par exemple 3 sacs de manioc, je vendrai 2 et je garderai un sac à la maison pour m'aider avec d'autres besoins. Ici dans mon champ, j'ai du manioc et des haricots. Je pourrai plus tard ajouter le soja et le maïs. Le seul problème que je rencontre ici, c'est que le climat n'est pas trop favorable pour le soja, les oignons, l'ail et la tomate. C'est ce qui me décourage des fois d'avoir recours à d'autres produits.
Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous parlerons entre autres du cancer du col de l'utérus. Si vous avez des questions ou pour tous vos commentaires, rejoignez-nous sur notre page Facebook VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. C'est la fin de cette édition de Carnet de santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.
Nous sommes arrivés à la fin de Votre santé, votre avenir. La première partie de ce programme hebdomadaire était consacrée à la lutte contre la drépanocytose. Nous avons eu notre interview avec Madame Béatrice Garrette, qui est la directrice générale de la Fondation Pierre Fabre, qui est engagée dans la lutte contre la drépanocytose. Madame Garrett a expliqué les stratégies qu'utilise la Fondation dans la lutte contre la drépanocytose, les succès enregistrés et les défis auxquels elle reste confrontée. Dans la deuxième partie, vous avez suivi Carnet de santé présenté par Linor Moudou. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro à la réalisation Lopez Nelson. Devant ce microphone, Nanit Talani, continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
VOA Afrique.